À tous, bien-aimés,
bonjour.
Voilà. J'ai mis une cravate pour faire plaisir à Jean-Louis. Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et je vous invite à entendre quelques lectures. La première se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, les versets 11 à 20. Verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, déjà. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Celui-ci adressa alors cette prière au Seigneur, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et le Seigneur frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Et lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Seigneur, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et le Seigneur ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?»« Tu ne frapperas pas, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? » ?»« Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'au paragraphe suivant, ils sont de nouveau là. Mais le Seigneur va de nouveau s'occuper d'eux. Un deuxième texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Jean chapitre 9, voilà, verset 39. Puis Jésus leur dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi serions-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Et puis j'ai noté encore une référence. Dans une recette de cuisine, il y a toujours plusieurs ingrédients. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant pas aux hommes leurs péchés, leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés ou laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah, comment voir les choses? Depuis l'invention de la photographie et puis celle du cinéma, nous vivons incontestablement sous le règne des images. Jacques Ellul, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, a commis un livre important dans les années 1950, et qui s'appelle « La parole humiliée », où il décrit les ravages et les dommages causés par la supplantation de la parole par l'image. Il était vent debout contre la télévision. Il disait que les images, elles s'imposent à nous brutalement, elles s'incrustent et elles sont là. Tandis que la lecture du livre permet de lire entre les lignes, de faire des notations dans les marges, et puis de relire, et de relire encore. La lecture et la parole nous respectent. L'image nous viole. Elle est partout instrumentalisée par les pouvoirs politiques, ça nous le savons bien. Manipulée comme jamais, et encore plus maintenant grâce à la technique informatique, l'image dessine un idéal humain, masculin et féminin. Un idéal, ça vient de idée. Et idée vient du grec qui signifie une vérité. Une vérité. Vous connaissez la chanson d'Alain Souchon, Foule sentimentale, soif d'idéal. On nous Schwarzeneggise, on nous Claudia Schifferise, etc. Cette chanson, je trouve, elle est remarquable parce qu'elle met en évidence le pouvoir écrasant des images sur le comportement des gens. Je ne parle même pas de la publicité. Un idéal trompeur, artificiel, mais auquel les foules sentimentales cherchent à correspondre. Combien a-t-on vu de poupées Barbie se promener dans les rues? Combien a-t-on vu du côté masculin, de réplique de Rambaud, ou que sais-je encore. Oui, un idéal artificiel. Les principaux médias qui sont aux mains des puissances de la finance, des puissances politiques, et même parfois des sciences scientifiques, des puissances scientifiques. Ils cherchent ainsi à étendre leur pouvoir et à amener les sociétés à accepter une vision du monde qui les rende obéissantes, serviles, pour leur plus grand malheur. Alors un autre regard est nécessaire. Et c'est pourquoi j'ai trouvé cet exemple du deuxième livre des rois, si je puis dire, éclairant. Nous avons besoin de voir autrement. Résumons les faits. Je ne vais pas vous relire le texte, mais c'est la guerre entre Israël et la Syrie. Le roi de Syrie se sent trahi, espionné. On lui apprend qu'en Israël, il y a un prophète qui répète les paroles qu'il prononce dans sa chambre à coucher. Il n'est pas très content. Alors il veut le faire taire. Ça, c'est quand on a la fièvre, on veut casser le thermomètre. Il veut faire taire ce prophète espion. Une expédition nombreuse est donc envoyée pour capturer Élisée à Dothan pendant la nuit. Le serviteur d'Élisée, je ne sais pas s'il s'agit encore de Géasi, il a peut-être été mis à la porte après l'histoire de Naaman. Le serviteur d'Élisée se lève de bon matin. Que voit-il ? On est assiégé. Des chevaux, des chars, une troupe nombreuse, ça y est. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Que doit-on faire ? Élisée lui dit, garde confiance, n'aie pas peur. Et il y a cette parole que j'aime beaucoup. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. En nous, il y a quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Faut pas oublier ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde et qui agite ce monde, qui trouble ce monde, qui le fait souffrir, qui veut sa perte, qui veut le faire retourner au chaos. Eh bien, il y a en nous quelqu'un qui lui résiste et qui le vaincra et qui l'a déjà vaincu à la croix. Alors Élisée lui dit, ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Puis il prie le Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur qui a besoin de changer de regard sur la situation. Ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Et le serviteur voit les armées célestes venues au secours d'Élisée. Cette vision révèle un autre monde, une autre histoire en train de s'écrire. Une autre histoire est en train de s'écrire. Le croyez-vous ? Vraiment. Nous sommes parfois angoissés, et particulièrement en ces temps de menaces, de bruits de guerre, de souffrance. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions cette autre histoire en train de s'écrire. Alors, le cocasse de cette histoire, c'est la prière à rebours qu'Élisée fait monter vers Dieu pour que le Seigneur frappe de cécité les troupes de Syrie. Aveugle-les. Et il ne voit plus rien. Le Seigneur ferme les yeux des Syriens et Élisée va profiter de la situation pour les mener en barque, en bateau. Il va les ramener chez leurs ennemis, à Samarie, là où il y a le roi d'Israël. Et le roi d'Israël veut profiter de la situation, bien sûr. Frapperai-je ? Il y a une version de la Bible qui dit « Frappe donc ceux que tu captures avec ton épée et ton arc, mais ceux-là, ils sont à moi. Laisse-les tranquilles. Fais-leur à manger et renvoie-les chez eux. » Et c'est ce qui se passe. Ce récit m'a renvoyé vers ces paroles de Jésus prononcées après la guérison de l'aveugle né. C'est vrai que d'une certaine manière, nous sommes tous, toutes et tous, des aveugles de naissance. Paul déclare dans la deuxième épître aux Corinthiens, toujours, que, ou la première plutôt, c'est au chapitre, je l'ai noté, 1 Corinthiens 2, 14. Au fond, l'homme naturel, nous sommes tous des naturels, l'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu, il ne peut pas les comprendre, elles sont une folie pour lui. Et Paul ajoute, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Oui, croire, c'est un miracle. Croire est un miracle. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir nos yeux et nous montrer cette autre histoire en train de s'écrire et qui a commencé de s'écrire dans l'endroit le plus improbable, l'endroit où tout semble s'écrouler, endroit de ténèbres, de souffrance et de misère, Golgotha. Golgotha. C'est là, à la croix, que le monde a été jugé. Jésus a été emporté vers la mort, mais il n'y est pas allé sans rien. Il est allé dans la mort, chargé de nos fautes, de nos péchés, de nos maladies, de tout ce que nous sommes, toute la faiblesse et la fragilité qui nous caractérisent. Tout cela, Jésus l'a pris avec lui et il est allé les mettre dans la mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il y a un vieux cantique qui dit « La mort a dû le prendre, et puis la mort a dû le rendre. » Il est revenu vivant d'entre les morts, mais sans nos péchés, sans nos maladies, sans nos infirmités, sans toute la misère qui nous caractérise. Jésus est ressuscité, vivant, glorieux, et il nous aime. Il nous faut porter sur Jésus ce regard. Pardon. Oui, après avoir guéri cet aveugle de naissance, Jésus déclare qu'il est venu dans le monde pour que ceux qui ne voyaient pas voient. Un jour, deux disciples sont venus voir Jésus en lui demandant d'être assis à sa gauche, à sa droite. Un autre évangile nous dit que c'est leur maman, une vraie maman juive, qui va voir Jésus, puis ordonne que mes fils que voici, soient assis à ta gauche, à ta droite, dans ton règne. Et dans ces deux occurrences, le récit évangélique nous parle de la guérison d'un aveugle, même de deux aveugles. Et dans les deux récits, Jésus pose exactement la même question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ou plutôt, il a posé cette question aux disciples. Mais après, Jésus, s'adressant aux aveugles, dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle, à la sortie de Jéricho, l'aveugle Bartimée, lui répond « Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. » Je vous invite à dire tous cette prière. Je nous invite. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que nous puissions voir le monde comme toi tu le vois. Le monde tel que tu le connais. Que nous puissions voir la situation comme toi tu la vois. Les pharisiens qui étaient là entendent les paroles de Jésus. Ils sont piqués dans leur orgueil. Ils se sentent un peu visés. Et nous serions aveugles. Et Jésus leur dit, non, si vous étiez aveugles, c'est-à-dire si vous étiez comme tous les autres, ignorants et conscients de cette ignorance, vous n'auriez pas de péché, vous ne seriez pas responsables si vous étiez aveugles. Mais maintenant, vous dites, c'est vous qui le dites, nous voyons. Traduisons, nous n'avons pas besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Nous avons Moïse. Nous avons Abraham pour père. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voyons. C'est ça qu'ils disent. Jésus dit, ben, puisqu'il en est ainsi, votre péché subsiste. Vous ne voulez pas de la guérison que Jésus apporte. Ici, Jésus prend un peu de hauteur. Il donne une interprétation spirituelle du miracle qu'il vient d'opérer. Voir ou ne pas voir, telle est la question. Ça signifie croire ou ne pas croire en lui comme Messie, roi d'Israël, comme l'incarnation d'un monde qui vient d'une autre histoire en train de s'écrire. On pourrait le dire ici, croire, c'est voir. Je sais bien que l'Évangile dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Mais croire, c'est voir d'une autre façon, d'une vision renouvelée. C'est recevoir un autre regard sur le monde, sur son histoire, sur la présence, sur les paroles et l'action de Jésus, le voir comme un bourgeonnement du royaume qui vient. Au printemps, vous voyez les arbres commencer à bourgeonner et vous dites « Ah, la belle saison arrive, il va y avoir des fleurs, des fruits, on se réjouit d'avance, n'est-ce pas ? Parce que les bourgeons sont des petits prophètes. Ils nous annoncent une belle saison. » Eh bien, l'Évangile, c'est ça. C'est le bourgeonnement de ce qui vient. Et que Jésus nous invite à demander, dont il nous dit, « Priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On n'y est pas encore vraiment, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, courage, frères et sœurs. Ayons ce regard que l'Évangile nous permet d'avoir, ce regard possible. Alors, je fais une petite correspondance entre l'histoire du serviteur d'Élisée et ce que nous vivons, nous. N'avons-nous pas le sentiment de vivre dans un monde assiégé, de tous côtés ? Où que nous portions nos regards, nous ne voyons que violence, impureté, magie, sorcellerie, cupidité, orgueil, arrogance. Où que nous portions nos regards, nous voyons ce monde totalement possédé par des puissances du mal et nous pourrions être complètement écrasés, découragés, déboussolés. Mais grâce à Dieu, nous pouvons voir l'histoire autrement. Il y a une autre histoire en train de s'écrire en secret des grands, en secret des puissances. Paul parle par exemple des grands de ce monde, des sages qui n'ont pas connu la sagesse de Dieu, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. La sagesse du monde est incapable de voir en Jésus-Christ la geste de Dieu, l'histoire que Dieu écrit et dans laquelle il veut nous faire entrer. Alléluia. Amen. N'avons-nous pas ce sentiment d'être assiégés ? Les différentes crises actuelles, écologiques, économiques, politiques, menacent la nature, les nations, les peuples, avec une intensité inégalée. Comme l'annonce Jésus, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Seigneur, merci, parce qu'un autre regard est possible. Et je pense que c'est une opportunité pour nous de faire apparaître déjà quelque chose de ce monde qui vient, de ce royaume qui vient, ne serait-ce que par notre paix, notre calme, notre confiance inébranlable. Nous n'allons pas trembler comme les autres, nous n'allons pas être défaitistes comme les autres, mais nous avons à proclamer la gloire du Seigneur, le crucifié ressuscité qui a changé le monde, qui a changé le cours de l'histoire. Alléluia. La meilleure façon de... Je ne sais pas si vous ressentez parfois le besoin de vous changer les idées. Oui, hein? On va voir un bon film, on fait un Scrabble, on fait quelque chose pour se changer les idées, pour échapper à la pesanteur d'un quotidien anxiogène. Je crois que la meilleure façon de se changer les idées, c'est de se tourner vers la croix. Tout à l'heure, nous allons rappeler la mort de Jésus. Et à travers ce repas, nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir dans l'espérance du banquet là-haut, avec Jésus, les prophètes, les saints, tous ceux qui ont espéré d'avance. Nous pourrons partager le banquet céleste. Oui, ce mot idée, nous changer les idées. Les idées, ça vient du grec, je l'ai dit, et ça désigne l'image de quelque chose ou de quelqu'un telle que l'esprit la forme par l'imagination. Il est donc bien question dans ce récit du regard posé sur une situation qui semble désespérée, ce qui conduit Élisée à demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et voyez-vous, il y a dans le repas du Seigneur, il est question de discernement. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Il y a quelque chose à voir à travers cela. D'abord, discerner le corps, c'est discerner que nous sommes le corps du Christ. Ce n'est pas un morceau de pain qui est le corps du Christ, c'est la communauté. Ça, il faut le voir comme ça. Et puis, la scène nous parle. Elle nous ancre dans le souvenir de la croix où tout se transforme, où tout change, mais elle nous enracine aussi dans le bourgeonnement du règne qui vient. Qu'a fait Dieu pour nous donner ce regard différent? Qu'a-t-il fait pour faire cesser nos aveuglements, pour faire pénétrer la lumière dans nos cœurs? Jésus, lui, l'a craché par terre. Il a fait de la boue avec sa salive. Et ce n'est pas très reluisant, ce n'est pas très propre. Il a mis cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Oh, combien c'est parlant tout ça. Le réservoir de l'envoyé. Il y est allé, il s'est lavé et il est revenu voyant clair. Eh bien, c'est un petit peu ce que Dieu désire faire pour nous. Nous regardons non pas vers un lieu de gloire, de puissance, mais dans un lieu où Dieu brise son image, la croix. Regarde à la croix. Oui, à la croix, Dieu est venu lui-même, dans son Fils unique, se livrer à la mort. Qui est mort sur la croix? Dieu a brisé son image à la croix. Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a retourné l'histoire. Et le premier à avoir pris conscience de ce retournement, c'est le crucifié d'à côté. Celui qu'on appelle le bon larron. Il n'était pas si bon que ça, puisqu'il reconnaît des crimes. Mais il regarde vers Jésus et le prie de se souvenir de lui quand il viendra comme roi. Quel regard! C'est incroyable ce regard. Vous ne trouvez pas? Il voit Jésus mourir à côté de lui, ensanglanté, torturé. Et il dit, tu vas venir comme roi. C'est quoi ça? C'est la foi. Et Jésus répond à la foi de cet homme. Comment a-t-il pu discerner en cet homme mourant, souffrant atrocement, un roi promis à un avenir plein de promesses, un avenir dans lequel il espère lui-même avoir une part? Souviens-toi de moi. Quand tu viendras comme roi. Alors, on peut dire qu'il avait peut-être des indices. La façon dont Jésus subit son supplice, l'écriteau que Pilate a fait placer au-dessus de sa tête, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. et peut-être aussi la reconnaissance de la justice du sort qui lui est réservée. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais je pense que le Saint-Esprit est aussi à l'œuvre là, secrètement, même ici, même à la croix. Et nous connaissons la réponse de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comme disait un, je ne sais plus qui disait cela, aujourd'hui, quelle promptitude, tu seras, quelle certitude, avec moi, quelle compagnie, dans le paradis, quel séjour. Alléluia. Excusez-moi. Autrement dit, tu as vu juste, tu as vu clair. Il est venu dans son Fils briser sa propre image, Dieu lui-même, à la croix. Nos idées, comment nous imaginions Dieu se brise à la croix. La croix est un scandale insurmontable pour celles et ceux qui imaginaient un Messie triomphant. Qu'il descende de sa croix et nous croirons en lui. Un Messie qui écraserait tous ses ennemis. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'était le secret de Dieu, caché même au prince des ténèbres. C'est que justement par sa mort sur la croix, Dieu dans son Fils a vaincu le monde, a vaincu le péché, la mort. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et désormais, la nouveauté du royaume est en marche. Là, je ne parle pas de qui vous savez. Loin de là. Les autorités juives, les soldats romains, la plupart des spectateurs de la crucifixion, de la mort de Jésus, n'ont perçu qu'une réalité. La vérité, c'est autre chose. Elle leur a été voilée. Pour voir la vérité de cet événement, nous devons être guéris de notre cécité. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions. Ce n'est pas un mince paradoxe d'ailleurs que l'Évangile présente la croix comme une cour royale. Le personnage royal au milieu et deux personnages à gauche et à droite. Je ne sais pas ce qu'on a pensé, celle qui témoigne de cette horrible scène s'était auparavant rapprochée de Jésus pour le prier de donner à ses fils une place à gauche et à droite. Là, elle a vu qui était à gauche et à droite. Ça a dû casser quelque chose aussi chez elle. Nous avons besoin, nous aussi, de briser nos images. Brisons les images du royaume que nous fabriquons à l'image des choses que nous voyons autour de nous. Laissons Dieu nous ouvrir les yeux sur son royaume. Pour voir la vérité de cet événement, oui, nous devons être guéris de notre cécité. C'est devant la croix que s'échouent nos rêves de puissance et de gloire, que notre regard peut et doit changer sur toute chose. Dans sa lettre aux Galates, Paul dit que sa prédication, la prédication de l'Évangile, a consisté à peindre Jésus comme crucifié. Vous avez remarqué ce verbe ? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il y a un endroit où nous vont regarder quelque chose. Et cette image, cette peinture du crucifié doit opérer chez nous un bouleversement total. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Cette idée, cette image, doit amener les croyants à se détourner des discours religieux qui prétendent maîtriser, conditionner l'amour inconditionnel de Dieu. Il n'y aura plus de temple. Il n'y aura plus de sacrifice. Il n'y aura plus de division entre le clergé et le peuple. C'est fini. Plus de médiation sacerdotale. Plus d'exclusion des femmes dans la vie de l'Église, plus d'exclusion des infirmes, des malfoutus, des étrangers. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup, une multitude de demeures dans la maison du Père. Jésus nous y a préparé une place en mourant sur la croix. Et puis il est venu nous prendre avec lui par sa résurrection, par la confiance que nous plaçons en lui et dans l'Évangile. Oui, la réconciliation du genre humain est rendue possible par la vision nouvelle donnée à la croix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout est devenu nouveau. Alors que notre regard change, que le Seigneur nous donne de voir les choses qui nous environnent, nos frères, nos sœurs, l'Église, le monde, le temps qui passe, etc., la jeunesse, la vieillesse. Hein. Voir tout cela autrement, sous le regard de Dieu. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Amen. Voilà.